France Culture, Soft Power, l'invité de Zoé Svez.
Bonsoir Karen Bastien.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous êtes data journaliste, vous êtes cofondatrice de We Do Data. On vous reçoit ce soir pour continuer notre réflexion sur ce journalisme à l'heure de la donnée, à l'heure digitale. Cette agence, We Do Data, agence studio d'ailleurs, c'est une agence, vous dites, de data vis, de data visualisation. De quoi est-ce qu'on parle quand on dit ça ?
Alors on parle d'un peu pour moi quelque chose qui est intrinsèquement lié au data journalisme, c'est qu'à un moment on récupère de la donnée. On récupère de l'information et il me semble que le graphisme, la visualisation, c'est vraiment la meilleure forme pour transmettre cette information à nos yeux, puis à notre cerveau. Parce que finalement, récupérer des tableurs de chiffres et les restituer sur tableurs de chiffres, ça ne fonctionne pas vraiment auprès du public. Donc c'est vraiment pour moi voilà, un petit peu le couple, c'est la visualisation des résultats du data journalisme.
Alors sur le site de ce studio We Do Data, où on a une très bonne d'ailleurs idée de ce que vous faites, vous vous présentez dans la petite partie à propos et vous dites « je suis pas fan des chiffres au départ et je découvre le potentiel d'histoire cachée derrière les tableurs » parce que c'est la fin de la réflexion que nous menions avec vos deux collègues tout à l'heure. Vous avez été une journaliste vous avez été formée, on va dire, à un journalisme assez classique, centre de formation des journalistes, l'école de la rue du Louvre, qui probablement à l'époque devait proposer des cours de web, mais pas tellement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre carrière pour qu'à un moment donné vous en veniez à ça ?
Effectivement, un parcours très classique où la donnée n'était pas du tout présente. Je n'ai jamais ouvert un tableur Excel pendant mes études de journalisme. C'est plus, on va dire, la vie. J'ai été tout de suite attirée par les thématiques économiques et écologiques que j'ai, on va dire, explorées à Libération puis à Terra Eco. Et c'est deux thématiques où il y a beaucoup de chiffres. Donc à un moment, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Finalement, je porte ça même comme un peu une honte. Je sais interroger des gens, je sais interroger des situations, des zones de reportage, mais je ne sais pas interroger des chiffres. Et donc, c'est une remise en question personnelle qui m'a menée à explorer ça personnellement et puis après collectivement avec mon équipe.
Alors justement, avant d'en arriver à une agence qui non seulement en fait s'occupe même plus de trouver les chiffres, mais d'une certaine manière de les restituer et de les intégrer, justement sur ce rapport, par exemple, aux chiffres et aux données de manière générale, vous avez vécu aussi ce moment où elles sont passées de disponibles parfois, si on savait chercher où, à quasiment immédiatement disponible tout le temps. Ça a été quoi, disons, les jalons technologiques, les moments qui pour vous aussi marquent cette évolution des rapports aux chiffres nécessaires et puis d'un coup évidente, quoi ?
Il y a deux grands moments, peut-être. Il y a 7 ans, l'ouverture du portail Open Data français. Donc l'Open Data, la libération des données publiques, c'est un mouvement mondial. La France y est mise tardivement, données ouvertes. Et il y a 7 ans, ouverture du portail. Donc c'est quand même un moment où tout d'un coup, des milliers, centaines de milliers de jeux de données ont été disponibles. Et puis après, je dirais que le jalon, il est difficile à dater précisément. C'est plus progressif, c'est que année après année, on a eu accès à des langages informatiques, des outils qui nous ont permis d'aspirer de la donnée, d'avoir accès à de la donnée qui n'était pas, elle, mise en open data. Et c'est là où, en fait, on a pu compléter cette open data par de la donnée et des bases de données qu'on crée nous-mêmes.
Voilà, c'est justement ça. On en a parlé brièvement tout à l'heure, mais c'est quoi aspirer de la donnée ? On aspire de la donnée avec quoi et comment ?
Alors, on aspire de la donnée avec des outils, des langages informatiques. Il faut savoir que le monde du web, au final, c'est une immense base de données. Quand vous allez tous les jours sur différents sites de réservation, d'hôtels, vous allez vendre des choses sur Internet, vous allez donner votre avis sur un restaurant, vous allez sur des plateformes et derrière, elles engrangent votre donnée, mais sous la forme de tableurs. Donc, ce qu'on fait, nous, avec nos outils, c'est tout simplement d'aller sur ces plateformes et finalement de récupérer la donnée que vous leur avez donnée, d'une certaine façon, et de recréer les bases qui sont derrière et qui sont, l'essentiel de leur activité.
Parce que c'est ce qui est intéressant dans cette agence, vous travaillez pour différents clients, donc ça peut être des médias, mais ça peut être aussi des associations, ça peut être toute une foule d'acteurs, pour créer toujours des choses sur mesure. Alors parfois à partir de données que eux vous donnent, parfois en faisant ce que vous allez faire là, par exemple, c'est ce que vous me disiez, peut-être qui vous demande quoi, par exemple, qui vient en vous demandant, on a besoin de montrer des choses sur des données, mais on les a même pas.
Oui, alors ça peut être une entité qui a envie de, par exemple, de refléter l'activité économique française. Alors par exemple, une journée déjà, ne serait-ce que ça, une journée sur Le Bon Coin, qui est aujourd'hui le site qui a un nombre de transactions, qui a le plus de CV que Pôle emploi, qui vend des maisons, des voitures. Voilà, ne serait-ce que aspirer une journée du Bon Coin, ça vous dit beaucoup de l'activité économique et sociale des Français. Ou par exemple Twitter, hein, est bien sûr un lieu énorme de profusion de données, donc on sait aspirer Twitter, on peut aspirer le Twitter des députés. On l'a fait pour aider également David Dufresne.
Dont nous parlions tout à l'heure,
voilà, effectivement. Donc vous parliez qui effectivement avec Allo Place Bobo, qui a commencé en fait juste comme finalement une série de tweets d'interpellations du gouvernement. Puis finalement, nous on s'est rendu compte au fur et à mesure des semaines que c'était des dizaines, des centaines de tweets. Et donc du coup, maintenant, on aspire et avec d'autres développeurs, on a créé une visualisation de données, ce qui permet à David, effectivement, d'avoir sur le site de Mediapart une visualisation en live de ces signalements qui voilà, ne sont plus des tweets unitaires, mais vraiment... Je pense que cela crée vraiment une visualisation forte et pour avoir comprendre ce qui se passe et ne pas avoir une vision simplement séquencée de l'information.
Parce que c'est ça en fait le cœur de votre métier, c'est de donner à voir des données, les trouver d'une part quand il faut le faire, mais aussi de les donner à voir, ce qui est un petit peu effectivement un enjeu clé. Du coup, vous travaillez avec qui ?
Alors, avec plein de métiers, je pense que c'est aussi ce qui m'a vraiment enthousiasmée dans... On n'est plus le journalisme solitaire. Bien sûr, on essaye tous de mettre la plume dans la plaie, mais on n'est plus le Albert Londres avec le crayon et le stylo. Aujourd'hui, on a des équipes complètes avec des data scientists.
Alors, c'est quoi un data scientist ? Parce que ce mot-là, on le voit partout. On a déjà pas mal parlé ici de designer UX, on va y revenir. Mais un data scientist, c'est qui ? Qu'est-ce que c'est son métier de base ?
C'est souvent des statisticiens, on va dire, des ingénieurs mathématiciens. Et comme un peu toute notre nébuleuse autour de la data, on a mis le data devant et puis on a un petit anglicisme et ça fait sympa. Voilà, sans dévaloriser ce métier, c'est effectivement l'ancien métier de statisticien, d'ingénieur. On a bien sûr des designers, vous parliez de designers UX centrés sur l'expérience utilisateur, mais en tout cas des designers qui aiment le chiffre, ce qui n'est pas toujours facile à trouver. Et puis des développeurs, c'est-à-dire pour rendre interactif ces informations, puisque bien sûr les visualiser c'est bien, mais en plus, donner la possibilité aux internautes d'interagir avec cette visualisation, c'est pas un objet plat et qui ne bouge pas. Au contraire, via des interactions, il peut explorer ces visualisations lui-même. Et je pense que c'est ça aussi la force du web aujourd'hui.
Oui, parce que peut-être on peut essayer de revenir sur quelques exemples. Vous citiez ce que vous avez fait avec David Dufresne, mais en fait, ça va de l'infographie. Ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on a tous vu, vécu, et qui d'ailleurs est assez, disons, vieux. Vous en avez vu déjà dans quasiment l'intégralité de vos quotidiens et ce depuis plusieurs dizaines d'années. Ça va de l'infographie à quoi, justement ? Est-ce que vous pouvez me donner peut-être deux ou trois exemples, peut-être journalistiques, de data visualisation qui apportent, par exemple ?
Alors, les visualisations de données qui apportent, ça peut être, pour ceux qui aiment ce sujet-là, il y a un nom qui est assez connu, qui est David McCandless, qui est un petit peu notre gourou, un Britannique, et qui a créé une visualisation très intéressante qui s'appelle le Billion Dollarogramme. C'est un grand cube de couleurs avec des espacements différenciés, et en fait, chacun représente une donnée monétaire. Et ce qu'il a fait, c'est hyper intéressant, c'est que au lieu de regarder les chiffres toujours séquence par séquence d'un journal, je regarde que les chiffres économiques, puis d'un coup que les chiffres sociaux. Pendant des mois et des mois, il a regardé tous les chiffres qu'il y avait dans un journal et les a mis côte à côte. Et tout d'un coup, de voir le poids, je sais pas, de l'industrie du porno par rapport aux ventes de croquettes pour chiens, puis ensuite le chiffre d'affaires d'Apple, tout ça n'a l'air de ne rien avoir ensemble, mais tout d'un coup, mis côte à côte, tout d'un coup, on se rendait compte pour la première fois des quantités et vraiment, oui, du poids des uns et des autres. Donc voilà, c'est une des visualisations qui a marqué son temps.
Alors effectivement, après vous pouvez parler de par exemple d'app. Dans les exemples, vous distinguez par exemple des choses qui sont interactives, des choses qui sont narratives. Comment est-ce que justement vous pensez ces questions ? Et je vais aller directement sur une question cruciale, c'est celle du budget, c'est-à-dire combien ça coûte aujourd'hui ? Qui finalement peut se permettre d'avoir recours à ça ? Et surtout, est-ce que les médias, les institutions sont prêts à mettre de l'argent dans cette question de la visualisation ?
Alors, sur la question de oui, ils sont prêts parce que aujourd'hui la donnée, on en a parlé, il y en a énormément et ils savent que elles portent des messages forts aujourd'hui de compréhension d'un monde qui est hyper complexe. Elles reviennent en fait à assurer un fact-checking vraiment factuel. On a des chiffres, alors après on peut interroger les chiffres, les méthodologies, comment ils ont été recueillis, etc. Mais je pense que dans ce moment un peu de n'importe quoi au niveau de l'information, les chiffres sont une valeur sûre sur lesquelles s'appuyer. Donc oui, elles investissent l'exercice. Aujourd'hui, on est une agence, on fonctionne, on estime en fait un temps de travail. Après, il faut savoir que pour les médias, par exemple, il y a plein de choses qui peuvent être récurrentes. Et c'est là-dessus qu'il faut miser, c'est-à-dire viser des développements qu'on pourra réutiliser dans le temps, à l'occasion d'élections, à l'occasion de sport ou
voilà,
autre.
Vous développez, un espèce de produit qu'eux pourront réutiliser.
Exactement.
Ce qui fait que du coup, ça devient relativement rentable pour eux. Une toute dernière question. À 20h10, dans 10 ans, vous l'avez dit, en 10 ans, les choses ont extraordinairement changé. Votre métier est né, il n'existait quasiment pas il y a 10 ans. Dans 10 ans, vous voyez les choses comment? Est-ce qu'on aura encore besoin d'une agence qui fera ça? Ou est-ce que finalement, ces questions-là, ces qualités, cette approche-là aura peut-être infusé un peu partout dans ce métier de journaliste et même au-delà?
Elle l'a déjà infusé. Il faut reconnaître qu'en France, les cellules data maintenant des journaux sont vraiment présentes et c'est bien. Après, je dirais que c'est un peu notre rôle, c'est d'aller toujours sur de l'innovation. Donc aujourd'hui, par exemple, on fait de la réalité augmentée, ce qu'on faisait pas il y a 2 ans. On va effectivement sur les bots, les messengers. Donc je crois intimement que de toute façon, les nouvelles techno nous permettront de toujours raconter des histoires en données et donc du coup qu'on sera toujours pertinent parce que la R&D elle est au cœur de notre activité.
Leur recherche et développement. Merci beaucoup, Karen Bassin. Je rappelle que vous êtes donc data journaliste et cofondatrice de cette agence et ce studio de data visualisation qui s'appelle tout simplement We Do Data.